zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Ondes Buissonnières, notre émission consacrée aux pépites sonores de la radio. Aujourd'hui, nous écoutons le troisième épisode de la série podcast de rue réalisée par Sarah Jacquet, intitulé 18 ans aux portes d'une vie d'adulte, suivi du podcast de Jeanne Robé, Terril Jeune. Belle écoute!
Podcast de rue.
Rencontrés à la sortie du lycée, dans la ville,
au skatepark, les filles
et les garçons racontent comment la jeunesse pense, ce qui la met en rage,
de quoi sont faits ses rêves,
ce qui lui donne de l'espoir.
Comment vivre les années lycée,
la question du genre,
les études
ou pas,
partir
ou rester.
Podcast de rue, une série de podcasts tournés
à créer
par Radio Saint-Ferréol
en collaboration avec les éducateurs de rue
de la Drôme. Épisode 3, 18 ans aux portes d'une vie d'adulte.
Si ton bobino il roule pas, c'est pas bien lissé et tu fais plein de traces en fait.
Ouais, faut que je lisse bien.
Parce que regarde là, sinon, tu vois là, la trace. Mais regarde, si tu le tournes, regarde, là c'est impeccable, t'as plus besoin de revenir, t'as fini.
Au début j'ai l'impression qu'il veut pas tourner, après...
Ouais, parce que quand il y a trop de peinture, et ben du coup, au lieu de tourner, il n'y a pas assez d'adhérence et du coup il glisse.
Ouais. Faut pas oublier les petits angles arrondis là. En plus c'est satisfaisant, tu mets juste un petit coup par contre.
Alors, la première matinée, donc c'était hier, on a tout gratté. C'était un portail qui est un peu ancien, donc il y avait de la rouille dessus. Et si on commence à peindre sur de la rouille, tout allait s'enlever et ça allait être vraiment une galère. Donc on a vraiment tout frotté pour que ce soit un minimum lisse de partout. L'après-midi, on a passé donc une première couche sur l'entièreté du portail. Ensuite, on est rentré chez nous et on a attendu que ça sèche du coup la journée pour qu'aujourd'hui on puisse passer la deuxième couche, parce qu'on passe que deux couches.
Alors aujourd'hui, donc, on est au service technique et on repeint le portail d'entrée des services techniques, un portail en acier. On a un partenariat assez ancien avec la ville de Cray sur des chantiers éducatifs. Quand je dis partenariat, en fait, c'est qu'ils viennent, nous font une commande et nous, derrière, on recrute les jeunes. C'est un CDD, c'est un vrai petit CDD. Donc ils sont payés au SMIC, ils cotisent, ils ont la feuille Pôle emploi, ils ont le solde tout compte, le contrat, la fiche de paye. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois. Et la difficulté qu'on a, c'est que les services techniques sont en pleine bourre parce qu'ils préparent le 14 juillet. Donc il y a des entrées-sorties permanentes. Là, on est le 13, si je ne dis pas de bêtises. Ouais.
La veille.
Voilà, la veille. Mais je pense que le gros coup de bourre, ils l'ont mis hier. Hier, ça n'arrêtait pas. Donc on a passé notre temps à ouvrir, fermer. Ouais. Il y a un camion qui arrive. Si, c'est bon, ça passe. Salut, ça va? Donc hier, on a dû ouvrir, je ne sais pas, 50 fois ce portail.
Je m'appelle Zach Alléan. J'habite à Espenel, donc à côté de Saillant. J'ai grandi dans la région depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, je suis en chantier avec Alexis et mon meilleur ami Enki, qui est présent aussi.
Je connaissais Géraldine et Alexis, les éducs de Cré. Et une fois, on était au bar du pont avec Zach qui est avec moi. Et on parlait avec Géraldine d'un chantier sur Saillant. Du coup, on a réussi à lui dire que vu qu'on habitait sur Saillant, ça allait être possible de lui donner un coup de main. Et de fil en aiguille, on a fait le chantier à Saillant et du coup, maintenant, le chantier à Cré.
Comment tu sens le rapport des jeunes, le tien, mais aussi ceux qui sont autour de toi, par rapport à l'avenir professionnel?
Ça dépend. Moi, je trouve que j'ai eu de la chance, parce que du coup, c'est l'endroit où j'ai fait mes stages qui m'ont directement proposé de me prendre l'année prochaine, sauf que la plupart des gens de ma classe ont dû passer par Parcoursup. Et moi, je trouve que c'est assez compliqué, parce qu'il y en a au moins une dizaine qui, au final, ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire l'année prochaine, alors que c'est dans 2 mois, et qui, au final, avaient des assez bons résultats, et on ne sait pas forcément pourquoi l'algorithme a décidé qu'eux ne seraient pas pris dans cette école ou une autre école. Et il y a pas mal de gens qui se sont fait bloquer au dernier moment sans vraiment savoir pourquoi. C'est vraiment des gens de ma classe et tout ça qui ont dit qu'ils avaient des super opportunités pour les écoles, qu'il y a des entreprises qui les avaient pris et qui leur avaient proposé de les embaucher en alternance. Sauf qu'ils les prennent en alternance seulement si du coup ils ont une école en parallèle. Et ces gens-là ont regardé tous les jours pendant plusieurs mois et du jour au lendemain, il y avait marqué refusé. Et là, l'année prochaine, bah, du coup, ils savent vraiment pas ce qu'ils font. Et la plupart partent sur une année sabbatique du coup pour essayer de chercher quelque chose d'autre, quoi.
Bah, c'est ce qui m'est arrivé. L'année dernière, du coup, j'étais sur Parcoursup. Après, en règle générale, j'ai pas eu un parcours scolaire irréprochable. Sur mes dernières années, je me suis concentré du coup pour avoir le bac sur mon année de terminale à Saint-Louis. Mais du coup, Parcoursup, j'ai été refusé de partout. J'avais juste quelques écoles en file d'attente. J'ai essayé d'y croire, donc j'ai rien cherché à côté. Et au final, sur les deuxièmes vagues, c'était je crois fin juillet, j'ai été refusé de partout. Et du coup, bah, j'ai décidé de faire une année sabbatique parce que j'avais plus trop le temps de trouver une école de moi-même. C'est pas forcément moi qui ai choisi de faire ça.
Ça évalue pas vraiment, c'est pas vraiment du cas par cas, c'est vraiment juste par rapport aux résultats et tout ça, alors qu'il y a des élèves qui étaient pas forcément très bons à l'école en quatrième et en troisième et qui au final ont eu un petit peu une prise de conscience et ont un petit peu grandi dans les années lycées, et ces gens-là seront pénalisés par rapport à certains qui ont eu un parcours, plus régulier, et au final on n'a pas vraiment l'impression d'être aidé quand justement on se retrouve refusé à un mois de la rentrée et qu'on sait pas du tout quoi faire, c'est un peu dommage, je trouve.
On peut l'apprendre ?
Ouais, je vous l'ai préparé, je l'ai tourné, je l'ai plié avec amour.
Vas-y, mais viens, tu sais quoi, on en verse un peu dans l'autre.
Ok, désolé. Est-ce qu'il y en a un qui peut aller rincer ça dans la fosse là-bas ?
J'y vais.
Avant que ça sèche.
Yes.
Alors, c'en est où là ?
Alors là, on s'est réorganisé, en fait, on fait moitié par moitié. Là, vous pouvez voir, c'est la moitié du portail, on voit le V, on fait moitié par moitié avec tout ce qu'il y a dedans, avec une partie chacun, comme ça. Après, de l'autre côté, on a juste à faire les faces et tout est rempli. Du coup, on s'organise comme ça à deux et ça va plutôt vite.
Par contre, c'est quoi cette baloche là ? Tu peux m'expliquer, Andy ?
Quelle baloche ? C'est ton côté.
Un chantier éducatif, ça peut avoir plein d'objectifs différents. Ça peut être pour des jeunes qui sont en décrochage et les mettre en lien avec la question de l'univers professionnel. Est-ce que tu mesures ce que c'est que t'inscrire dans un travail sans trop de qualifications ? Ça peut être des jeunes qui cherchent à s'insérer et qui ont des difficultés à tenir leur emploi ou à trouver l'emploi. Parfois, on prend un jeune dont on sait qu'il a des capacités professionnelles assez fortes, donc on peut penser que ce jeune-là n'aurait pas besoin de nous, mais c'est parce qu'on a ce jeune-là qu'on va s'autoriser à prendre un jeune qui peut nous planter un peu à n'importe quel moment, puisque nous, on est toujours dans cette tension où il faut à la fois qu'on laisse les chantiers ouverts aux jeunes les plus loin de l'emploi, mais en même temps, on doit livrer un chantier. On a un client derrière. Regardez.
Ah oui. Et c'est neuf.
Ça, c'est vraiment un patron qui pense bien à ses employés.
Même si on est un peu sous-payé, bon.
Bah vous êtes au SMIC, hein.
Bah, je rigole.
C'est satisfaisant tout ça.
C'est vraiment le mot, hein, satisfaisant.
Ouais, c'est vrai.
C'est satisfaisant, c'est parce que on voit souvent sur les réseaux des trucs comme ça où des gens ils mettent des peintures comme ça et en un coup comme ça, c'est tout est nickel et tout.
Ouais. À notre âge, on essaie de trouver tout ce qui est satisfaisant, justement.
Bah, j'aime bien ce que ça recouvre.
Ça recouvre un poteau, là.
Ouais, voilà, ouais, mais c'est le petit bonheur. C'est le petit bonheur fastoche.
C'est satisfaisant, ça va un peu avec apaisant, quoi. Des petits trucs qui sont pas forcément très compliqués, mais qui donnent
une satisfaction, quoi.
Cueille le jour. Tu cueilles le jour, Enki, toi ?
Ouais, souvent, dès le matin. Mais...
Genre, retirer les affiches, c'était satisfaisant,
par exemple.
Ah ouais.
Ça, c'était quoi ? C'était sur le transformateur ?
Sur le transfo, yes. Ouais. C'était satisfaisant au début.
Après, il y avait une affiche sous une affiche, ouais. Ou trois affiches sous neuf affiches.
Mais c'est vrai que ce bac là qui nous envoie faire des études ailleurs, tu te retrouves tout seul, ben, surtout que nous ici on n'a pas de faculté, enfin, ouais. Même à Valence ou dans la région il n'y a quand même pas grand chose, donc ouais, c'est souvent Lyon, Grenoble, Montpellier ou...
Là le problème c'est que si tu as des parents qui te suivent bien ça va, si tu as des parents qui te suivent pas ça va pas, ils devraient mettre des choses pour tout le monde, que tu aies des parents qui te suivent ou pas, qui t'aident.
Effectivement, même pour les parents qui peuvent suivre, c'est une grosse charge mentale aussi, parce qu'ils ont plein de trucs à gérer. En général, bon, parfois, il y a des petits frères, des petites sœurs, le boulot. Et puis, ça fait jouer au maximum l'inégalité des chances, si tu veux. Ouais, selon la famille dans laquelle tu as grandi, il y a des choses qui vont se régler toutes seules, et puis, ou pas, quoi.
On en parlait avec des filles de Versailles qui sont venues en vacances pendant une semaine ici, et elles disaient, c'est vrai que nous, on est obligés de faire des études, nos parents nous obligent. Et on n'a que ça, quoi. Et genre, eux, par exemple, en fait, Paris, c'est mal vu d'être en bac pro. Elle disait, j'ai jamais rencontré autant de gens qui sont en bac pro, quoi.
Parce que tu vois, on leur expliquait, vu qu'on avait tout notre groupe, et on leur disait que, bon, c'est pas en règle générale ici, mais c'est à Saillant, en l'occurrence,
On est une bande de jeunes, on est tous, on sait pas pourquoi, un peu flemmards de l'école, et on fait tous la fête jeune, et on fait tous la fête souvent, tu vois. Et du coup, on lui expliquait qu'il y avait personne en général, et elle disait, oh, c'est pas possible, machin, je comprends pas, nous, nos parents, ils nous obligent, machin. Mais moi, je lui ai dit, enfin, je lui ai expliqué que moi, mes parents, ils m'avaient entre guillemets obligé, mais c'est juste que je leur ai dit que c'était pas possible et que je pouvais pas faire autrement, quoi.
Moi, pas du tout, moi, j'ai jamais voulu partir en général. Je savais très bien que 5 ans d'études, ou 4 ans, même 4 ans, ou... c'était mort. C'était impossible.
Si t'aurais fait un an en général, tu serais parti.
Mais après, le bac, maintenant, j'ai l'impression qu'il a une valeur plus différente d'avant, quand même.
Ouais.
Parce que, en vrai, non, mais c'est pas pour dire... Non, mais c'est tant mieux que les gens aient leur bac et tout, mais je trouve qu'au final, ça fait que certaines entreprises, bah, vont même plus forcément regarder si la personne elle a eu le bac ou pas, sachant que, dans tous les cas, 98% des gens l'ont eu, quoi.
Un bac en soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est qu'est-ce que t'en fais derrière.
Voilà, après, oui, c'est sûr.
Si tu as juste le bac, autant un bon CAP...
Oui, 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 c'est pour ça.
Enfin, alors, pour le coup, tu vois, la valeur des CAP aujourd'hui est bien mieux appréciée sur le marché du travail qu'à mon époque. Mmh. Moi, quand j'avais des mauvaises notes, j'avais des profs qui me disaient « Monsieur Coutin, vous allez finir en bleu de travail », ce qui voulait dire « Vous allez finir artisan ». Aujourd'hui, les artisans, il y en a plein qui s'en sortent bien mieux que des gars ou des nanas qui se retrouvent juste avec leur bac et ils galèrent. Ils galèrent.
Ah bah oui, au final, oui, non, mais c'est parce qu'ils n'ont aucune compétence du coup dans le travail
le
en soi.
Ils ne donnent pas de compétences professionnelles.
Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, toi et tes amis, pour l'avenir?
Bah, déjà, si j'arrive à faire que mon métier plus tard c'est relié au sport, je pense que j'ai de l'espoir parce que je suis fan de ça. Et en plus de ça, j'ai très bons amis sur qui compter, parce que j'ai grandi dans un petit village, donc ça a toujours été les mêmes. Donc je pense que je peux avoir de l'aide aussi, dans ma vie, en règle générale.
Et tes amis autour, ils ont ta génération, tu vois?
Ma génération, c'est beaucoup l'argent déjà. C'est vraiment quelque chose qui motive tout le monde. On n'a pas envie de se laisser, même si on est des flemmards et on va pas forcément faire des études jusqu'à loin, on se dit que si par exemple on a un métier à 1002, 1005, ça nous suffit pas. On a beaucoup de dépenses à notre âge. On a tendance à aimer un peu le luxe. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que mes parents sont pas du tout comme ça, mais on a tendance à être un peu relié au monde du luxe, à avoir des téléphones qui coûtent cher, à souvent les changer. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alexis, c'est un plaisir de travailler avec lui, la peinture aussi, mais l'argent, ça fait partie du jeu, quoi. C'est quelque chose qui nous motive tous à notre âge.
Allez, faites la pause.
Les VIP ici.
Allez, hop. C'est bon, elle est là.
Merci. Bonne journée à vous.
Merci, Aziz.
Avec plaisir.
Alors, comme il y a le pont, peut-être que le virement, il se fera pas vendredi.
Mais ouais, non, mais c'est... après, bon, ça va, j'ai encore jusqu'à septembre. Je sais que ça peut se faire assez vite. Un compte en ligne, ça se fait en 5 minutes, si jamais...
Ouais, mais ça veut dire aussi que tu choisis pas forcément ta banque.
Je suis allé pour créer un compte à la Poste et ils m'ont dit que c'était du coup le mois prochain, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai trouvé ça trop long. J'aurais dit, bon, bah, c'est pas grave. Je le ferai autre part, quoi.
Ouais, bah même ça, si c'est tout l'administratif, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour nous les adultes, mais c'est vrai que quand tu rentres dans la vie active, tout est dématérialisé, bah, ça laisse penser que ça serait plus simple.
Moi, je
trouve ça plus simple.
Ouais, mais gros, moi, j'ai ma carte bleue sur moi, je sais que je dépense tout le temps, toute la journée, alors qu'avec mes sous en liquide chez moi, bah, je prends 10 balles pour
par
la journée.
Par rapport à ça, oui, mais par rapport au fait qu'on part en vacances et que t'as juste besoin de prendre une carte et pas 1000 euros en liquide dans ton portefeuille.
Bah oui, mais bon, regarde, tu prends ta carte, tu prends ta carte, tu fais comme ça. Ton plafond. Ouais, mais justement, tu sais
mon
pas
plafond était bloqué, mais à l'heure actuelle il est plus bloqué.
Oui, mais justement, heureusement qu'il était bloqué. Tu serais revenu, tu serais à découvert.
Non, mais non. Faut savoir être raisonnable dans la vie.
Oui, mais raisonnable et raisonnable. Oui, mais moi en tout cas, je me fais confiance avec 50 euros en liquide sur moi, je me fais pas confiance avec 2000 euros sur une carte. Surtout quand tu vas au bar, juste tout est plus accessible, du coup, et tu peux acheter forcément beaucoup plus de choses, même sur internet.
C'est vrai que c'est stressant, hein, de tout, de gérer les papiers, de penser à renvoyer les formulaires à temps.
Je me sens bloqué. En fait, depuis que j'ai eu 18 ans, là, j'ai tellement de papiers à faire d'un coup et tout, je n'ai rien fait. Ça fait presque 6 mois.
Il faut bien savoir expliquer.
J'ai toujours pas bougé.
Faut bien savoir expliquer, mais ça le fait. Hein.
Bah ouais, mais du coup, tu vois, dans les familles.
Ouais, mais il y a des gens qui sont pas du tout.
C'est plus ou moins bien transmis. Même dans des familles, les parents eux-mêmes, ils peuvent être en difficulté. Enfin, moi, des fois, je patauge aussi dans mes papiers.
Ma mamie est dans la merde. Il y a des trucs qu'on doit faire que en ligne et tout ça. Elle est obligée d'aller voir des voisins, de faire scanner ses papiers.
Pas équipé au niveau numérique, que t'as pas l'ordinateur, l'imprimante, le scan, ça peut être une galère. On avait un jeune qui avait suggéré qu'il y ait des cours au moins une heure par semaine où on étudie qu'est-ce que c'est que l'autonomie administrative et budgétaire.
Ça, et pour moi aussi, on devrait aussi rajouter une heure de, pourquoi pas, de code ou de révision de code ou des choses comme ça, parce qu'on nous dit souvent, oui, le bac, c'est une super grande, c'est une porte, machin et tout, sauf que bah, si on n'a pas le permis pour aller aux portes, au final, on est un peu bloqué. Quoi.
Porte, c'est le permis.
Ouais, bah oui, parce qu'au final, si on ne peut pas se déplacer pour aller travailler...
Moi, j'ai vu le changement... Le bac, ça m'a pas apporté quelque chose de fou. Enfin, j'ai le bac, c'est très bien, mais le permis, ça permet de... Quand j'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour un travail, pour un logement, pour peu importe, je peux y aller quand je veux. Alors lui, c'était une organisation tellement compliquée qu'au final, on avait la flemme et qu'on le faisait pas. Parce qu'on devait prendre le bus une heure avant, on arrivait une heure avant, on faisait par exemple notre rendez-vous de 20 minutes, après on rattendait une heure, au final ça nous prenait 6 heures pour faire un rendez-vous de 20 minutes, alors que là avec le permis ça nous prend 30 minutes.
Du coup on procrastine vachement plus. Après bon, j'ai 18 ans donc si je me bougeais en soi je l'aurais le permis, mais bon pour l'instant en vrai avec le prix de l'essence et tout ça je sais pas vraiment si ça me mettrait pas plus dans la merde au final quoi. Enfin tant que t'as pas un travail fixe en vrai tu fais rien avec le permis. Moi au final avec mon argent de poche je me fais un plein dans le mois et après j'achète rien. Prix de l'essence et même prix de l'entretien d'une voiture en vrai ça devient un budget abusé. Ma mamie elle pète un câble aussi, elle essaye de du coup s'organiser pour faire ses rendez-vous à Cré et tout en même temps que quand elle va faire les courses et tout parce qu'un aller-retour maintenant à Cré au final ça devient...
Ouais c'est du luxe.
Après il faut aussi un peu se déplacer et tout mais putain c'est vrai que c'est chiant parce qu'on a l'impression que si on travaille on n'a pas de temps pour utiliser notre argent et si on travaille pas on a du temps mais on n'a pas d'argent pour faire des choses donc au final on est un peu... Mais bon après ça va, on se plaint pas, on a quand même du temps pour nous, surtout en été.
Quelle heure est-il que vous n'auriez pas fini?
55.
Un bout de rouge. Je vous paye la moitié du salaire. Moi je suis l'inspecteur des travaux finis. Et donc là le challenge c'est de retrouver un petit bout de rouge qui n'a pas été recouvert et je crois que je vais pas y arriver.
Il n'y a rien, hein. On voit.
Je crois qu'ils n'ont rien oublié.
Trop beau.
Ils ne vont même pas reconnaître le service technique.
Ouais, ils vont
se dire, mais non, c'est pas là.
On est sur la fin. On vous a fait un beau portail.
Ouais,
ouais,
il est beau, hein.
Si, Picasso, ils sont là tous les ans, travaillent pour la ville, embellir, comme on dit, la ville, et ils font du bon boulot. Moi, je tiens à les remercier, il faut leur donner du boulot.
Merci. Hein.
De rien. C'est plaisir.
C'est satisfaisant.
Là, c'est satisfaisant. T'es satisfait, petit doigt?
Satisfait?
Ouais, satisfait. Là, pas encore, mais ça arrive.
C'était 18 ans, au port d'une vie d'adulte, épisode 3 de la série Podcast de rue. Prise de son, réalisation et montage, Sarah Jacquet. Merci à Zach, Enki et Alexis d'avoir pris le temps de bavarder avec notre micro.
Cet hôtel ne ressemblait à rien. Un rectangle sans âme et pratiquement sans fenêtre. Des murs crépis, beige saumon, des tuiles d'une couleur tout aussi moche, un immense terrain de gravier tout autour et une inscription au-dessus de la porte d'entrée, la villa. J'étais en reportage quelque part en France, en périphérie d'une petite ville, et pour amuser les copains, j'ai pris une photo de l'hôtel où j'allais passer la nuit. J'ai posté la photo sur ma page Facebook en ricanant. Avec ce commentaire, « Mon hôtel, je vais aller mourir. » Tout le monde a ricané à son tour sur cet hôtel, une espèce de maison témoin de lotissement raté. Et puis quelqu'un a écrit « Ça ressemble à une certaine villa où je suis allée faire une boum au collège. » Ponctuée d'un smiley qui fait un clin d'œil. J'ai eu un choc. Celui qui a écrit ça, on était copains au collège. Je l'avais pas vu depuis plus de 20 ans. La maison, il y était allé une seule fois. On était en 6e. Et cette maison dont il parlait, c'était la mienne. Celle où j'ai passé une bonne partie de mon enfance, toute mon adolescence, et où mes parents vivent encore. j'ai grandi dans un lotissement des Bouches-du-Rhône, à la sortie d'un petit village qui s'appelle Saint-Savournin. Ni en ville, ni tout à fait à la campagne, dans la France des ronds-points, des tondeuses à gazon et des sardines à la plancha. Mes parents sont charmants, mais je me suis barrée dès que j'ai pu, à 18 ans. 20 ans plus tard, alors que j'allais avoir 40 ans, j'ai changé de ville. Et le temps de m'installer dans mon nouvel appartement, j'ai mis toutes mes affaires dans le garage de mes parents. Je suis retournée vivre chez eux, à Saint-Savournin, le temps d'un été. Et je me suis replongée dans le décor de mon adolescence. 22 maisons collées, 22 garages collés, 2 voitures par foyer, et les ados qui font comme ils peuvent.
Ce sont des maisons qui sont tout à fait pareilles, ils sont collés tous ensemble, et la couleur, c'est tout jaune. C'est du crépi jaune, toutes les maisons. Des tuiles rousses, normales.
Le lotissement, c'est dans l'entrée d'une vallée qui forme un creux, qui tourne avec des rues qui tournent, comme une spirale. Des maisons de 2 ou 3 étages qui sont pas forcément super grandes, avec un petit jardin, des fois des piscines. Les maisons sont pas super chères, mais comme on est dans le 13, c'est quand même cher. Donc je pense que c'est plutôt de la classe moyenne qui vit ici.
C'est pour les gens normaux, quoi.
Avec le temps, et pour faire marrer les copains, on a toujours tendance à grossir le trait. Je raconte souvent que le lotissement où j'ai grandi était rempli de kékés en scooter, que l'avenir se limitait au permis de conduire à 18 ans, au mariage à 25 et à une petite piscine à crédit dans un autre lotissement, pas loin des beaux-parents. Alors pendant mon séjour chez papa-maman, j'ai voulu savoir à quoi ils rêvaient, les ados du lotissement aujourd'hui. Comment ils vivaient dans ce décor, où étaient leurs frontières, leurs espaces de liberté, et si on aurait pu rester copains.
On a accès à peu près à tout, mais on n'est pas dans une ville là où il y a un peu de pollution, il y a beaucoup de monde, là où il y a des embouteillages, où il y a des rues partout, du béton partout. Là, il y a des arbres, il y a de la forêt, il y a de la terre, mais on n'est quand même pas dans la campagne. Donc j'aime bien ici.
Lorenzo, il a 14 ans. C'est un geek malin, intello et débrouillard, et gentil avec ses parents.
Je me vois vivre dans la même région. Mais pas dans une ville ni dans une campagne, dans à peu près le même environnement.
La ville, j'aime pas, il y a trop de monde, c'est bruyant, il y a trop de monde et tout. Et là, après, si c'est trop retiré, qu'il y a presque personne, qu'il y a les villages sont à 10 km les uns des autres, non, ça m'intéresse pas, je suis bien ici, moi.
Joris, il a 18 ans. Il ressemble davantage aux ados de mon époque. Il a l'accent, il a fait pas mal de conneries sur son scooter, mais il s'est bien calmé depuis.
Je me vois plutôt dans une maison, c'est qu'il y a un petit jardin ou un truc comme ça, que dans un appart. Je m'imagine plutôt ici, je me sens pas de partir ailleurs, parce que j'ai toute ma famille qui est ici. Mes grands-parents, ma marraine, mon tonton, mes cousines, les autres cousines de ma mère, ses cousins éloignés, toute la famille est regroupée ici.
Et puis il y a Camille, Luna, Théo, Cyrine, Romain, Inès et Emma, qui ont entre 11 et 17 ans et sont tous des adolescents plutôt sages et souvent d'accord avec leurs parents. J'en ai pas trouvé un seul pour me dire qu'ils trouvaient ça nul, le lotissement. Moche, ennuyeux, qu'il rêvait de vivre ailleurs, en centre-ville ou paumé dans la garrigue, et dans tous les cas très loin de ses parents.
Saint-Savournin, c'est un village qui est entouré de grandes villes, Aix-en-Provence et Marseille, mais qui est un peu paumé.
Pratiquement tout le monde se connaît en fait, parce que c'est assez petit quand même, du coup. C'est facile de rencontrer les gens.
Ouais, c'est aussi pour ça que je suis bien, et c'est parce que c'est pas trop connu non plus. J'aime bien.
J'ai un copain de la guitare qui habite en centre-ville de Marseille, mais selon ce qu'il me dit, il a pas vraiment une vie différente. Il fait à peu près les mêmes choses que moi, sauf faire des cabanes dans un terril, puisque à Marseille, il n'y en a pas. Mais les jeux vidéo, la musique, tout ça, il fait à peu près pareil que moi.
Saint-Savournin, c'est un village d'anciens mineurs de charbon au pied des collines de Pagnols. Notre lotissement a été construit en 1987 au pied des vestiges de la mine et baptisé lotissement le Grand Puech. En provençal, ça veut dire la Grande Colline. 30 ans plus tard, les gens du village disent encore les maisons neuves. Mes parents, eux, ont toujours écrit « hameau » à la place du lotissement comme adresse. Ça fait plus classe.
J'ai travaillé comme une taupe. C'est-à-dire, j'ai creusé à certains endroits, j'ai mis la terre à d'autres endroits, creusé des caves sous la maison. Bon, j'ai creusé une piscine à la main.
C'est mon père qu'on entend. Quand il rentrait du boulot, un travail de cadre dans l'informatique bancaire, il prenait une pelle et une pioche et retrouvait ses racines paysannes.
J'étais plutôt intellectuel, hein, je suis toujours un peu quand même. Mais nous, on n'avait pas d'argent. On habitait à Aix avec des gens de la classe supérieure, mais on était en location. Donc on a acheté quelque chose dans nos moyens. Et donc ici, c'était plutôt des électriciens, des mécanos. On aurait été à Aix, j'aurais été sans doute un peu malheureux que vous ne côtoyiez qu'une seule classe sociale.
En 30 ans, les arbres ont beaucoup poussé, et les petites piscines aussi. Les gens moyens prolo sont devenus moyens, moyens plus. Chacun y a mis du sien dans la couleur des portails et des volets. Mes parents ont acheté la dernière maison à vendre, une semi-mitoyenne au bout de la rangée du bas. C'était la maison qui avait la plus belle vue. Une fois dedans, si on regardait les montagnes au loin, on pouvait oublier ses voisins. Le sol en lino et le jardin en éboulis pourraient évoluer avec le temps et les rentrées d'argent. Mais d'abord, il fallait installer un capteur solaire sur le toit. Dans le lotissement, on est vite passé pour des originaux.
Et tes parents, il y a un vrai décalage entre leur personnalité, même leur façon, la façon dont ils vivaient et tout, la façon dont ils vous éduquaient, et à Saint-Savournin, ou, ouais. Là-bas au fond, dans le vase clos. C'est vrai que c'est bizarre, hein, avec le recul. Hein.
Samia, c'était ma copine du lotissement. Et à côté d'elle, c'est sa mère qui est venue lui apporter des gâteaux.
Moi, quand j'allais chez toi, mais c'était très belle, je te racontais, je fais ouais, mais trop cool, ça. Moi, ouais, un piano, nous, la première fois que j'en ai vu un, c'était chez toi, quoi.
Nous, c'est des paysans.
Non, c'est pas une question de paysans, ça n'a rien à voir. C'était pas du tout pareil, tu vois.
Sa maison était dans la rangée du haut. Elle avait la chambre avec la tapisserie à fleurs, la même que celle de ma sœur. J'adorais aller chez elle. Sa mère me faisait des tatouages au henné sur les mains. On mangeait plein de baklava, et comme c'était l'aîné, on pouvait commander ses petits frères. Elle aussi, elle aimait bien venir chez moi.
Quand j'arrivais chez toi, bah déjà la télé, elle n'était jamais allumée. Que nous, bah, tout le temps, la télé, les dessins animés. Mais moi, quand j'arrivais chez toi, et t'avais, je me rappelle, à l'époque, t'avais des hamsters dans ta chambre.
Avant, quand on était plus jeunes, on restait plus ensemble que maintenant. On se regroupait tous sur la placette avec tous les jeunes et on s'amusait. C'était cool. On inventait des jeux tout le temps, c'était bien.
Moi aussi, je trouvais ça cool au début, le lotissement, quand on était une bande de gamins. On avait notamment développé une obsession pour la descente super raide de la pente du lotissement, assis deux par deux sur nos skates. Le propriétaire du garage sur lequel on atterrissait tout au bout a fini par gueuler. Mais trop tard. On voit encore les traces de l'été 90 sur la porte de son garage.
C'était au collège, je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y avait quelqu'un qui allait au collège, il venait plus. Plus ça allait, plus on s'écartait de la placette, on trouvait ça un peu...
pas honteux, mais on avait d'autres choses à faire.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué là. La dernière fois qu'on a joué, c'était quand il neigeait.
Avant, on allait sur la placette et maintenant, on va dans le terril. Déjà, la placette, elle est pas très grande, il n'y a pas grand-chose à faire. En plus, quand on fait des choses, il y a tout le monde qui nous voit. Donc c'est mieux d'aller dans le terril.
On n'a pas vraiment le droit. Je trouve que c'est trop dangereux, nos parents.
Ils ont raison. Le terril, c'est un peu dangereux et c'est ça qui est bien.
C'est un grand talus où on utilisait les terres de la mine qu'on ressortait, on les mettait ici. Et du coup, là, comme le terril est très très vieux, il y a plein d'arbres morts, et nous, on les récupère pour faire une cabane.
Moi, j'ai plutôt le souvenir que dans le terril, les ados allaient se rouler des pelles rapidement dans la cabane après l'avoir construite.
Pour l'instant, le terril, on le connaît pas assez. Hein. Il y a des endroits qui sont assez loin, mais vers le bas, qu'on n'y est pas trop allé. Hein. On l'a pas encore fini d'explorer, ce terril est hyper hyper grand.
Là, il y a des branches entre les arbres. Pas sur cet arbre devant, mais derrière, juste au bord d'en haut. Et on a fait une cabane là, où donc on a fait des murs, un toit, des trucs comme ça. Bon, il y a des trous partout. Mais là, c'est pile en face.
Mais c'est la cabane dont je m'avais déjà parlé la dernière
oui.
fois.
Ouais. Et là, juste à droite, comme il n'y a aucun arbre, il y a le soleil, il tape toute la journée. Donc là, il y avait des asperges qui poussaient un peu partout.
Et ils ont réussi à faire une chaise avec des trucs qui ont été laissés en haut, des planches et tout. C'est trop bien, mais par contre c'est un petit peu dégueulasse, il y a des bouteilles de bière.
Ouais, mais
et
ça
tout.
C'était les gens qui passaient avant, mais comment les a nettoyés
Des fois je vais dans la colline là, qui est derrière, mais il y a des voisins qui ont construit une cabane, et du coup des fois j'y vais. J'y vais toute seule. Je regarde.
Nous, on était bien, on prenait les vélos, on allait dans la colline, on allait prendre des pelles, des pioches, on se faisait des bosses, et on passait l'après-midi comme ça, tous les après-midi.
Comme pour nous, les pionniers, les ados quittent d'abord la placette, puis grimpent la pente et le terril. Ensuite, ils investissent l'arrêt de bus, et 800 mètres plus loin, le village. Moi, j'y allais le mercredi après-midi pour mon cours de danse. Parfois, quand un voisin du lotissement passait en voiture, il s'arrêta pour me faire monter, en ayant l'impression de me sauver la vie. Mes parents ne s'inquiétaient jamais pour moi. Mais comme tous les autres adultes du lotissement, ils n'allaient jamais non plus au village à pied.
Non, mes parents ne les aiment pas du tout. Ils n'aiment pas que je sois seule dans le village, en fait. Ils n'aiment pas. Ils veulent pas que je sois à pied dans le village, mais ils me disent pas pourquoi. Parce qu'ils sont stressés quand même. Hein. Ils sont stressés quand je pars au collège ou quoi. Ils m'envoient plein de messages. Ils me disent où t'es, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Ben, je leur dis c'est bon, tout va bien, voilà.
Maintenant, il y a un petit centre commercial avec un parking à la sortie du village, à la place des vieux commerces qui mouraient près de la fontaine. Les lotissements ont poussé. La population a triplé. On est passé de 1000 à 3000 habitants. Il y a des cadres et des enfants de cadres qui n'ont pas l'accent. Et on peut même faire ses courses au magasin bio. Par contre, les gens s'y rendent toujours en bagnole.
De temps en temps, je suis allée jusqu'au village à pied. Bon, je trouve pas ça très folichon.
C'est ma mère qu'on entend. Elle se sent très bien chez elle, avec ses bouquins, son piano et ses vieilles cassettes de tango. Mais elle est un peu dure avec Saint-Savournin.
S'il y avait un petit sentier qui passait un petit peu en contrebas de la route, je le prendrais plus volontiers. Mais le long de la route, cette route nationale, enfin, elle n'est pas très drôle. Hein. Et puis le village lui-même, il n'a pas un charme fou. Il y a un petit coin avec une fontaine, une petite place là. La place de la Poste, c'est assez mignon. Mais il n'y a même pas une belle église. Même le cimetière n'est pas joli. Le cimetière est moche. Bon, ça ne veut pas dire que je mène une mauvaise vie hein, à Saint-Savournin. Mais enfin, je ne peux pas dire que je sois dans une correspondance du fond du cœur avec cet environnement.
À l'âge de 10 ans, j'ai dit à mes parents que mon éducation était terminée et que je pouvais aller vivre seule à Paris. Il me fallait juste un petit peu d'argent de poche. Le lendemain, je demandais quand même si je pouvais retourner faire du poney.
J'aurais aimé faire du poney hier ou aujourd'hui.
Là, c'est moi qu'on entend. Ma grande sœur est partie vivre un an aux États-Unis.
Alors, je te souhaite un joyeux Noël.
Et on lui envoie une cassette pour Noël.
J'ai hâte d'aller à Berlin et...
Nos parents ont tout fait pour qu'on aille voir très vite ailleurs.
Et dom, et magazine, et schola, et zavod.
Cette année-là, je viens de rentrer en sixième. Et pour aller dans un bon collège, j'ai choisi russe première langue.
Русский язык. Урок первый. Здравствуйте, здравствуйте.
Le collège du coin avait pas bonne réputation. Et j'aimais bien les trucs froids et exotiques. Dans mon cours de russe, on était 10. Deux enfants de communistes, trois enfants de bourgeois, deux enfants de communistes bourgeois et trois enfants comme moi qui se tapaient une heure de quart à l'aller et au retour pour contourner la carte scolaire et compter le nombre de ronds-points sur le trajet.
Moi, j'ai pas souvenir que Agréas, que c'était mal fréquenté.
Samia, en sixième, elle est allée au collège du coin.
Il y avait un petit peu les jeunes, un petit peu dehors, un petit peu les bagnoles, un petit peu tout ça.
Alors, à l'adolescence, on s'est éloigné, comme avec tous les autres enfants du lotissement.
Personnellement, j'ai rien vécu de traumatisant, quoi. À part la fille là, qui s'est fait tirer dessus dans ma classe, là, qui était décédée.
Mais c'est pas à Gréasque, ça, ça pas dans le
bien
collège.
Bien sûr que c'était au collège de Gréasque.
Elle s'est tuée au collège.
Mais bien sûr, c'est son mec qui lui a tiré dessus.
Mais c'était chez elle.
Oui, c'était chez elle, c'était pas dans le collège. Mais nous, on a vécu au collège. Maman, c'est traumatisant. Moi, la fille était dans ma classe, quoi. Oui, c'est une fille que je côtoyais tous les jours.
Je pensais que c'était le collège.
Non, c'était pas au collège.
J'ai jamais entendu parler de cette histoire.
Tu as pas entendu parler de cette histoire? Elle s'appelait Marilyn.
C'est quand j'ai commencé à prendre le car tous les matins à 7h que j'en ai voulu à mes parents d'habiter là. Les autres ados du lotissement, je les croisais à l'arrêt de bus, mais on parlait plus la même langue. Je savais pas qui sortait avec qui au collège du coin. Ils écoutaient de la dance, et moi, j'avais des cassettes de Nirvana et de Rage Against the Machine dans mon Walkman. Ma sœur et moi, on était les seuls à aller à Aix-en-Provence à l'école. Au village, ils disent que les gens d'Aix, ils ont l'accent pointu. Ils sont snobs. Au-dessus de Valence, c'est le pôle Nord. Et les Marseillais, c'est des tarés et il y a trop d'Arabes.
On a énormément senti le poids du racisme, quoi.
Terrible,
je veux dire,
terrible.
Ça a été quand même assez violent, hein. Que ce soit à l'école, que ce soit avec les gens qui habitaient aux alentours, ben, je sais pas, toi tu te souviens peut-être pas, mais les vieux là-haut, là, ils étaient pas très sympas.
Ouais,
hein, c'était compliqué, hein. Et pourtant, je veux dire, on était quand même assez tranquille comme famille, hein. On n'était pas des familles.
Sa famille était kabyle, et nous, on venait de la Bretagne. On était les deux familles d'étrangers. Les descendants d'Italiens et d'Espagnols, ça comptait pas comme des étrangers. Comme a dit le maire à la fête des voisins, on est bien ici, dans nos collines.
Le lotissement du Grand Pioche a été le premier lotissement construit sur la commune où sont venus s'installer des gens de l'extérieur. On disait des étrangers. Hein? Parce que l'étranger, aujourd'hui, on le sous-entend par quelqu'un qui vient d'un pays extérieur. Dans le langage populaire d'ici, l'étranger, c'est celui qui est de l'autre village. D'ailleurs, quand j'étais petit, chaque fois qu'il y avait la fête du village, on mettait une grande banderole à l'entrée du village, honneur aux étrangers. Ça veut dire honneur à ceux qui viennent des villages à côté. Vous voyez, l'étranger, c'est juste celui qui est à... Hein, on est un peu dans l'histoire de Manon des Sources, là, vous voyez.
Il y a 2 ans. Et là, il y a les vieux qui jouent au bowling le samedi.
Les vieux ?
Ouais.
J'ai assez de liberté et mes parents m'autorisent à tout.
pas le messie de la famille, mais il m'autorise à faire beaucoup de trucs.
J'aimerais bien avoir un petit peu plus de liberté, mais pour mon âge, c'est déjà assez bien d'en avoir autant. Faut pas faire de bêtises, quoi, sinon c'est assez libre quand même. J'aimerais bien pouvoir marcher, aller faire un peu ce que je veux, enfin je veux dire, monter plus loin ou quoi. Je pense que vous étiez plus libre quand même parce qu'il y avait moins de danger. Surtout les garçons, enfin, avec les viols et tout. Enfin, il faut pas suivre des personnes dans leur voiture ou quoi.
À 14 ans, j'ai évidemment demandé un scooter et je l'ai pas eu. Je voulais un chapi, une petite moto très girly. Les filles du lotissement roulaient avec ça, tandis que les garçons avaient des boosters, avec des pots ninja. Je disais à mes parents que je pouvais très bien aller en chapi à mon lycée, à 20 km. Mais au fond, je savais très bien que ça tenait pas du tout la route. J'ai donc continué à prendre le car. Mais quand je croisais des garçons du lotissement qui traînaient sur des boosters à l'arrêt de bus, au lieu de plonger dans mon Walkman, je me passais la main dans les cheveux.
Ils veulent pas que j'ai un scooter. Ils veulent pas, ils veulent pas du tout. Après, peut-être moi, j'ai pas demandé que j'en ai un, je sais pas.
Ah bah moi, j'étais tout le temps en vélo. Après, tous mes collègues, ils avaient le scooter, moi je l'avais pas. Ils allaient tous dans les villages et tout. Moi, c'était chiant. Au bout d'un moment, ça me gonflait, je devenais fou. Mes parents, ils voulaient pas que je l'aie parce que c'était trop dangereux. Moi, je l'ai eu à 15 ans et j'avais tout changé. Il n'y avait plus rien qui était d'origine et normalement, il ne devait pas rouler sur la route. Survette, hein. Tout ça en survette de foot ou des trucs de marque, et voilà. Après, la sacoche, c'est pour pouvoir tout ranger dedans, quoi. Quand on sortait en scooter ou à pied, pas tout avoir dans les poches ou quoi, on peut prendre tout ce qu'on veut, mais dans la sacoche. Des fois, l'été, on allait en scooter, on allait jusqu'à Cassis, à La Ciotat. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un scooter pour pouvoir se déplacer, aller un peu où on veut. C'est la liberté, quoi. Ils m'ont fait confiance, j'ai fait des conneries, j'avais plus le droit de sortir le soir. Après, ça revenait petit à petit. Je grattais une heure par-ci, une heure par-là pour rentrer de plus en plus tard. Une fois, j'avais fait un délit de fuite avec des gendarmes parce qu'on cabrait en sens interdit. Et du coup, je m'étais fait attraper, j'avais fini à la gendarmerie. Je faisais que cabrer. Bon, moi, c'était mon truc, ça.
Joris, il m'aurait sûrement fait un petit peu peur avant mes 15 ans. Et un an plus tard, je l'aurais ignoré en le qualifiant de kéké en scooter. Mais entre les deux, l'été 95, j'aurais fumé des clopes avec lui et ses copains sur le terrain de boules.
On était sur le terrain de boules, on restait là la journée, le soir, on parlait tranquille, on s'amusait. On prenait des chariots, on se mettait dedans, on tirait avec les scooters, des poubelles, n'importe quoi, quoi. Tous les villages, on se rejoignait tous là-bas, du coup, on était tous ensemble.
Ma cousine était venue passer le mois d'août avec moi. Elle, elle habitait dans un lotissement en Bretagne, où les maisons semi-mitoyennes étaient toutes blanches, avec des toits en ardoise et des Velux. Au mois de juillet, on y avait fait sensation avec nos jeans déchirés, parmi sa bande de copains en mobylette et perfecto. Le défi pour le mois d'août, c'était d'imposer notre style parmi les garçons du Sud qui mettaient du gel, portaient des bombers et roulaient en booster. À deux, c'était plus simple. Et au bout de 5 minutes à l'arrêt de bus, on a trouvé une bande avec qui passer le reste de l'été.
Parfois, j'en vois à l'aire de jeu qui est à côté où il y a les tables, et parfois, moi, j'en vois assis aux tables qui parlent.
C'est des gens au lycée. Et généralement, enfin, on les entend parler et tout, voilà, quand on sort de l'arrêt de bus. C'est pas des gens qui prennent leurs études au sérieux, quoi. Ils cassent les arrêts de bus et tout. Enfin, ils fument, ils font n'importe quoi, quoi.
J'ai déjà vu des adolescents traîner à l'arrêt de bus. Je les vois souvent, ceux-là, mais je les connais pas. J'ai pas envie d'aller les voir parce que je sais qu'ils ont fait des bêtises très graves, déjà. Ils ont brûlé des voitures pendant la nuit. Ils ont fait un doigt d'honneur à ma mère.
L'année dernière, il y avait énormément de jeunes qui étaient là-haut. Mais cette année, ils sont partis. Donc, ils habitent encore dans les environs, mais ils ne sont plus là-haut. Donc on ne les voit plus. Mais sinon, il y avait un groupe avec des scooters et qui fumait.
Lorenzo, il ne fume pas. Il travaille bien à l'école. Il est chaleureux et poli. Il fait de la batterie électronique dans sa chambre. C'était un modèle de garçon qui n'existait pas dans le lotissement à mon époque. Et mes parents l'adorent. Ils lui donnent de l'argent de poche pour qu'il s'occupe de la piscine quand ils sont en Bretagne.
Déjà, j'aime pas fumer les cigarettes parce que je m'étouffe. À chaque fois que je passe à côté d'un fumeur, j'ai l'impression que je vais mourir, en fait. Et l'alcool, j'aime pas trop ça. Et les scooters, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis surtout celui, pas qui se fait discret, mais qui se fait à moitié discret. Pas celui qui est tout le temps en train de parler, mais celui qui écoute et qui fait 2-3 commentaires.
Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais la seule à écouter du rock au Grand Puech. J'aurais bien voulu faire de la batterie, mais il aurait fallu la mettre dans le garage, il ne fermait pas à clé et j'ai pas insisté.
Il y a énormément de gens qui écoutent du rap, mais j'ai quand même pas mal d'amis qui écoutent du rock ou du hard rock. Mais du rock, j'aime bien Green Day ou AC/DC.
Un jour, j'ai un voisin qui s'est mis à écouter du hard rock à fond dans sa chambre, mais j'ai jamais osé lui adresser la parole. On se regardait de loin, et je voyais passer son ombre la nuit à la fenêtre quand je fumais des clopes en secret derrière le volet de ma chambre. Il y a un moment où, à part quelques garçons qui cabraient en scooter dehors, chacun a vraiment fait sa vie dans sa chambre et dans son coin.
Dans le lotissement, je parle jamais aux personnes et... C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ose pas et voilà. Je préfère rester chez moi et faire des activités toute seule. Il y en a plein qui nous qualifient de kikou jap. Les kikou, c'est les enfants et jap, c'est le diminutif de japonais. Et c'est plutôt une insulte.
Je suis totalement un geek. Exemple, je m'amuse à créer des jeux vidéo. À faire du montage vidéo, à jouer à des jeux. Je fais principalement du Minecraft. En gros, c'est un monde cubique. On est un personnage qui doit survivre et créer son monde à lui. Son propre monde, comme il le souhaite, en faisant ses propres maisons, ou en construisant des montagnes ou des ponts. Ou en faisant ce qu'il veut, en fait.
On fait que jouer la nuit. La nuit, on s'arrête pas, on fait que jouer. Ma mère, elle nous dit d'éteindre vers minuit, demi, une heure, mais on n'a pas trop le droit, vu que la play, elle fait beaucoup de bruit, c'est pour ça. Elle a le wifi. Sinon, après, des fois, on part à la pêche avec son père. On va vers Fosse-sur-Mer et on va pêcher pendant toute la nuit. Le père de mon copain, il a la grosse combinaison, du coup, il va loin dans la mer. Il jette les cannes et nous, pendant toute la nuit, on dort pas et on regarde les cannes, c'est sa mort.
Les héros de Valdemar, c'est le livre que je préfère. C'est l'histoire d'une fille qui est un peu exclue de sa famille, qui arrive à se libérer et aller dans une ville où elle sera formée comme héros de la reine et... Et après, elle va vivre des aventures, et à la fin, elle va réussir à se construire malgré sa famille. Et ça, j'aime bien.
À l'âge de 16 ans, je suis partie vivre un an dans une autre famille, en Norvège. Je vivais dans une petite ville tout au nord du pays, à 500 km au-dessus du cercle polaire. C'était froid et exotique. C'était parfait. J'ai essayé de pêcher du poisson dans le fjord, mais j'ai enroulé les filets autour du moteur. Mon activité principale consistait surtout à marcher dans la neige pour aller voir mes copains du lycée, qui vivaient tous à côté dans de belles maisons en bois de toutes les couleurs. Cet endroit me semblait beaucoup moins paumé que mon lotissement des Bouches-du-Rhône. Mais quand j'ai retrouvé mes parents, ils m'avaient suffisamment manqué pour que je les trouve formidables. J'avais eu un an pour comprendre que l'horizon était grand ouvert, que j'avais toute la vie pour habiter ailleurs que dans un lotissement et que le jardin et la piscine de mes parents étaient quand même pas mal.
Moi, je suis partie à 18 ans tellement j'avais hâte de partir de Saint-Sauveur, vraiment.
Ouais, mais parce que toi, tu voulais faire autre chose et tout. Tu avais besoin de liberté et d'espace.
Mais toi aussi.
Ouais, mais moi, je travaillais. Hein. Je travaillais, j'avais mon boulot, j'avais ma voiture. Enfin, voilà, j'étais bien, quoi. Je suis papa-maman, t'as ta chambre, t'es tranquille, t'es nourrie, logée, blanchie. Enfin, j'étais pas malheureuse, quoi.
Même Jamal est parti à quel âge?
Oh, bah lui, il s'est fait mettre dehors, quoi. Il a fallu qu'il se fasse mettre dehors, quoi.
Samia, elle a voulu faire des études d'arabe à la fac d'Aix. Ses parents n'étaient pas trop contents. Ils pensaient que c'était une voie de garage et elle a trouvé un bon job dans l'import-export. Mais elle n'a pas souhaité changer de décor.
On est dans une maison, on a un jardin, on est quand même au calme, on peut se garer facilement.
Aujourd'hui, elle vit dans un autre lotissement, dans les Bouches-du-Rhône, avec deux enfants, en zone périurbaine.
Moi, j'habite dans un lotissement, mais honnêtement, si j'avais le choix, j'habiterais pas dans un lotissement. Je suis comme tout le monde, hein, acheter une belle bastide provençale au cœur des vignes. Enfin, ouais, c'est le rêve, quoi. Moi, mon ancien patron, quand il me dit « Ouais, j'ai acheté une bastide à la je sais pas où avec une chambre d'olivier », bah merci, ouais, moi aussi, j'aimerais beaucoup. Ça me ressemblerait énormément, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, maman?
Tu vois?
Ah oui, c'est un peu... Ouais.
C'est froid?
C'est un peu frais, ouais.
Voilà.
Ah, tu vas même pas faire quelques bras,
ça? Ah non.
Tu sors tout
j'ai
de suite.
J'ai peur de couler à pic.
Ce sera, je pense, ton dernier bain de la nuit.
Sans doute.
Quelle belle naïade. Tu t'es imaginé un peu dans l'Atlantique, là?
Pas vraiment, non. Je me suis plutôt imaginé dans un trou au pôle Nord. un trou dans la glace. Il y a quelques roses encore. C'est chouette, hein? C'est magnifique. Regarde celle-là, comme elle est belle. Celle de là-haut.
Elles sont moins fortes que celle-ci.
Ah oui. Vas-y, ah oui. Ben parce qu'elle est un peu plus épanouie.
Mais oui, c'est une rose mûre.
Donc
maman.
Voilà, elle a libéré son parfum. Et oui, celle-là, c'est une petite jeunette.
Ça ressemble à une certaine villa où je suis allée faire une boum au collège. Cher Mathieu, ne t'inquiète pas, ton commentaire sur Facebook ne m'a pas vexée. Tu serais étonné aujourd'hui. Le jardin est superbe et bourré de coins surprenants. Mon père a construit une pergola en fer forgé, une jolie salle de douche à l'italienne et une piscine en forme d'œuf qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. Ma mère renifle toutes les plantes à longueur de journée. Et le soir, mon père descend à la cave piocher une bonne bouteille à partager avec les amis. Ils viennent souvent de loin, car mes parents ont préféré voyager plutôt que d'investir dans l'immobilier de caractère. Parfois, ma mère feuillette le magazine Côté Maison en se rêvant châtelaine dans un manoir en Bretagne ou faisant la vaisselle dans un évier en pierre de cassis. Et puis mon père allume un feu dans la cheminée, ma mère prend un bon bouquin. Et quand je leur rends visite, on grimpe dans la colline pour manger des huîtres dans la garrigue et admirer l'horizon.
Arte Radio.com.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages d'ici Buse.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.